des polars et des notes.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro estival de Des polars et des notes sur Radio Évasion. Soleil, chaleur, champion du monde et tout le tout-team, le temps est venu d'une petite sélection de romans bien noirs à déguster à l'ombre du parasol ou en dorant sur la plage. Des polars, des thrillers, des romans noirs qui pimenteront vos vacances ou vous permettront de patienter avant de partir vous-même au mois d'août. Mais pas que, nous irons aussi au Monte Lagos, un drôle de pays qui a confié le pouvoir à un despote et qui a transformé sa nation en une vaste entreprise dans laquelle les résultats économiques priment sur les libertés individuelles. Vous me direz que c'est une idée étrange et qu'il faut vraiment de l'imagination pour penser qu'un peuple puisse agir ainsi. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les références des romans dont nous allons parler sur le webzine 404. Pierre-Yves est tout bronzé derrière sa console, la météo impeccable, un son parfait. Partons vers la Californie pour mon roman noir coup de cœur de cette première moitié de l'année. Alors, ce roman noir, c'est My Absolute Darling de Gabriel Tallent, qui est paru aux éditions Gallmeister, qui a été traduit de l'américain par Laura Darnjinski. Alors, c'est un thème périlleux, l'inceste, qui est maîtrisé à la perfection par l'auteur, qui a pris le temps, il a mis 8 ans pour le peaufiner. C'est un magnifique roman. My Absolute Darling nous raconte l'histoire de Turtle Alveston que son père surnomme Croquette. Cette adolescente de 14 ans habite dans le nord de la Californie et passe sa vie très isolée en dehors du collège à traîner les bois armés d'un fusil et d'un flingue. Son père est une sorte de survivaliste, un peu dingue, un peu un télo, il la surprotège, l'accapare. Et ils forment tous deux un couple terriblement pathogène qui survit en équilibre jusqu'à ce que Turtle, bien entendu, au hasard d'une fugue en forêt, rencontre un ado prénommé Jacob qui va lui ouvrir des horizons très dangereux pour elle et lui donner envie de conquérir sa liberté. C'est un chef-d'œuvre du roman noir. Alors ça, c'était l'apéro et c'est... On se prend un petit morceau de Tom Waits, Walk Away, avant d'attaquer les polars.
That king was whittled from the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. Said I wanna walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I wanna look in the mirror, see another face. I said never, but I'm doing it again. I wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has seen. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah. Born to walk away, start over again. Born to walk away.
Des polars pour la plage. Alors, trois polars à embarquer avec vous parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Des polars parus depuis janvier 2018. Le premier à coller dans votre valise, c'est Les Chemins de la haine de Eva Dolan, qui est paru aux éditions Liana Levy, qui a été traduit de l'anglais par Lise Garon. C'est un très très beau roman, ça dépasse même le cadre du polar, c'est un très très beau roman sur la condition des immigrés des pays de l'Est en Angleterre. Ça se passe à Peterborough, c'est une petite ville anglaise où un Estonien périt carbonisé dans un cabanon de jardin. Et il n'y a pas de quoi émouvoir les habitants parce que pour eux, des immigrés, il y en a déjà trop. Et ils se gênent pas pour le leur dire et pour les exploiter jusqu'à plus soif. Les deux seuls qui sont un peu gênés, c'est Zigic et Ferreira, qui sont deux immigrés, enfin de plusieurs générations, parce qu'ils sont anglais. Ils sont membres de la brigade des crimes de haine. Et eux, ils vont enquêter jusqu'au bout et ils vont découvrir quelle est la réalité et l'exploitation sordide des immigrés en Angleterre. Mais ça ne vaut pas que pour l'Angleterre, ça vaut à peu près pour tous les pays d'Europe. C'est une vision crue et réaliste de l'accueil soi-disant humaniste reçu par les migrants dans notre belle Europe libérale. C'est, à mon avis, c'est un livre indispensable. Le deuxième, c'est La ferme aux poupées de... Alors là, je m'excuse pour la prononciation. Je crois que c'est Wojciech Szmilarz, qui est un écrivain polonais aux éditions Agulo, dans la collection Agulo Noir, qui est traduit du polonais par Eric Vaux. Et ça raconte l'histoire d'une enquête menée par l'inspecteur Mokka, qui est dit le cube, ça c'est plus facile, qui a été envoyé à Kretowice, c'est une petite ville perdue dans les montagnes. Et officiellement, il est là pour un programme d'échange, mais en fait, il est plutôt là pour régler un problème qui s'est passé à Varsovie, où ça s'est plutôt mal passé dans une sale affaire. Et s'il pense être tranquille et avoir la paix dans le petit village, là, il se trompe lourdement parce qu'il va tomber sur des crimes en série, des histoires de pédophilie et de cadavres dans une mine. Enfin, tout ça, ça va prendre des proportions pas possibles. Et c'est l'histoire d'une petite communauté qui est refermée sur elle-même et toute la haine qu'elle arrive petit à petit à secréter. Et tout le monde en prend pour son grade. Et c'est un très beau roman sur les idéologies rances, rabougris qui nourrissent la haine et la peste brune qui s'abat un tout petit peu tous les jours sur tous les pays d'Europe. Et le troisième, c'est un livre plus drôle, plus léger, mais en même temps très profond. C'est Mazad de Jean-Bernard Puy aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. C'est l'histoire de Camille Destrois, qui est un quadragénaire, célibataire, qui travaille dans une sorte d'hypermarché. Et qui est interpellé lors de l'évacuation d'une ZAD de Zavengem, occupée par des activistes. Et quand il sort du commissariat, le hangar où il stockait des objets de récup destinés à ses copains de la ZAD a été entièrement brûlé. Il n'y a plus que des ruines. Il est licencié par son employeur, sa copine le quitte, et il se fait tabasser par des skins. Donc, heureusement, il y a une jeune femme, Claire, qui est là et qui va lui remonter un petit peu le moral. Et il a tout d'un coup, il a envie de se révolter et de rentrer dans l'art des affreux. Et les affreux, c'est la famille Walter, c'est des potentats locaux et des bétonneurs. Et il va trouver un biais pour leur rentrer dedans. Et ce que veut dire Jean-Bernard Puy, c'est chacun de nous, individuellement, nous sommes une ZAD à préserver contre toutes les agressions qui se multiplient aujourd'hui. C'est un polar salutaire. Et pour passer le tout, on s'écoute un petit blues. C'est Blues with a Feeling de Little Walter. That's what I had to do.
here by yourself. What a lonesome feeling when you're by yourself.
Un petit blues, Little Walter, rien de tel que la chronique tant attendue, celle que vous ne rateriez pour rien au monde, les romans de l'été de Dance Floor, qui a la tête au soleil et les doigts de pied dans le sable. Bonjour Dance.
Bonjour, moi c'est à peu près ça, il fait gris aujourd'hui.
Mais c'est aussi bien que d'avoir les doigts de pied au soleil et la tête dans le sable, si on regarde bien.
C'est vrai.
Or donc, tu as lu ?
Alors, j'ai beaucoup lu, mais j'ai réservé 3 livres pour aujourd'hui.
C'est déjà bien.
C'est pas mal ?
Allons-y.
Hein ? Alors d'abord, le roman de Laurent Guillaume, chez De Noël, Là où vivent les loups. Alors, c'est l'histoire d'un flic, Priam Monet, qui est obèse, gigantesque et surtout monstrueusement misanthrope. Totalement inadapté aux relations sociales et qui est en colère de façon permanente et qui est bien décidé à faire payer cette colère-là à tous ceux qui croisent sa route. Alors ça, c'est vraiment très très drôle, j'adore. C'est un ancien flic en fait, parce qu'il a eu quelques problèmes, comme on peut bien imaginer, au cours de sa carrière, qui explique qu'il soit maintenant affecté à l'IGPN.
D'ailleurs qu'il est flic des flics.
C'est ça, donc il a eu des problèmes et du coup on le colle chez les Bascarottes. Et en province, en plus, loin de son 11e arrondissement parisien chéri, c'est le seul arrondissement qui lui plaise. On est d'accord.
Et il peut vivre que là, quoi.
Même pas. Voilà, c'est ça. Alors, dans cette vallée savoyarde, un homme semble posséder toutes les industries et donc tous les emplois. C'est Antoine Chapaz, un type qui paraît avoir tous les droits et même de faire ce qui n'est pas permis, évidemment.
Ouais, en montagne, c'est normal qu'il y ait des premiers de cordée.
Mais oui, voilà, tout à fait. Alors ça déplaît souverainement à Priam, évidemment, qui s'en fait un ennemi au premier regard. Et surtout, quand un cadavre est retrouvé dans la montagne, un type qu'on a maladroitement tenté de camoufler en migrant, mais qui porte un tatouage militaire, ce qui le rend assez facilement reconnaissable quand même. Et pour Monet, c'est sûr, il y a un lien entre ce mort et Chapaz. Et c'est pas lequel. Mais il va le trouver avec l'aide de Claire Mougel, la flic qui réussit à lui être sympathique. Je peux dire que c'est un vrai exploit.
Et donc, alors, ça avait été un migrant, ça n'aurait pas été grave.
Ça n'aurait pas été la même chose, disons, parce qu'il y a un problème, justement, dans le livre, il y a un problème avec la réaction des autochtones face aux migrants, et qui sont très mal, évidemment, accueillis, etc. Mais ça n'aurait pas été le même problème, si tu veux.
D'accord.
Là, il y a l'histoire du camouflage, en fait, qui prouve que cette mort est éminemment suspecte. Tu vois, c'est pas juste... Bon, ce serait horrible aussi, évidemment, mais ça n'est pas un meurtre simple. Tu vois.
Certes.
Voilà. Alors, il y a de l'action, évidemment, parce que s'opposer à Chapaz, c'est très dangereux. Et face à des types qui sont habitués à manier le fusil de chasse, tu as deviné qu'évidemment, ils sont en chasse contre les loups. On est en droit de se faire du souci. Alors, Monet va savoir ce qu'il en coûte et risquer sa carrière. Donc ça, c'est pas grave, mais sa vie, surtout, pour aller au bout de cette enquête tortueuse et imprévisible. Il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup ri, malgré tout. à cause du caractère complètement insupportable de Monet, qui est réjouissant, et à cause des personnages qui l'entourent, qui sont très finement étudiés et toujours très intéressants. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman.
Bon, alors ça, c'est Là où vivent les loups de Laurent Guillaume, paru aux éditions de Noël dans la collection Sueur froide.
Voilà, c'est ça. Ah, tu tiens un dossier, toi.
Ouais, plat principal.
Après, le deuxième roman. Brasier noir.
Ah ouais, c'est un gros plat, ça.
Ah la vache, ouais.
plus de 1000 pages.
1056 pages. Et bon, ça les vaut, hein, on est d'accord. Mais je me suis musclé les bras, si tu veux, en lisant ce roman. Donc, un roman de Greg Iles chez Acte Noir, qui est traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet. Alors, c'est vraiment le genre de roman qu'on adore. Hein. Ça se passe dans le Mississippi, à Natchez, dans le sud des États-Unis. Donc, il y a un gros, gros roman comme on aime. Et attention, c'est le premier d'une trilogie. Très dense, palpitant. Et le personnage principal, c'est Penn Cage, qui est procureur et maintenant le maire de Natchez. Et il apprend que son père, Tom Cage, médecin généraliste depuis toujours à Natchez, est accusé de meurtre. C'est un vieil homme maintenant, il est malade. Et il est absolument adoré par tous les citoyens de Natchez. Mais il s'est fait quelques ennemis, évidemment. Il aurait tué Viola Turner, son ancienne infirmière, une femme noire, qui est partie vivre à Boston dans les 30 dernières années, là, et qui est revenue mourir à Natchez chez sa sœur parce qu'elle a un cancer en phase terminale.
Et alors, donc, on repasse en vue tout le sud des États-Unis.
Bah oui, c'est ça. C'est vraiment l'occasion de revenir en arrière à partir des années 50. Et on connaît évidemment la problématique, mais c'est absolument passionnant. Et alors pour Penn, le fils, il est absolument impossible que son père ait tué. Il est possible, par contre, qu'il ait aidé Viola à mourir dignement par humanité. Mais c'est pas la vie du shérif ni de la justice.
Évidemment.
Évidemment. Cette accusation est le prétexte d'un retour en arrière. Hein. Tu disais, au temps du Cuvuslan, bien sûr, de la ségrégation, des lynchages. Et Penn Cage va trouver en face de lui les ennemis toujours, les ex du clan des aigles bicéphales, une espèce de groupe dissident du Cuvuslan, si tu veux, qui trouvait que le Cuvuslan était un petit peu mou du genou quand même, qui sont tortionnaires, violeurs, assassins en tout genre. Et ces ex du clan des aigles bicéphales ont à leur tête un homme qui tient la ville, qui s'appelle Bloody Royal, un type ultra puissant qui tient les commerces, les entreprises de la ville et donc la plupart des gens influents d'une main de fer. Alors, Penn se lance dans la bataille pour sauver son père avec quelques alliés très téméraires pour qui la justice vaut parfois qu'on y laisse la vie. Donc c'est un super roman, j'ai vraiment adoré et comme je disais, ce n'est que le premier de trois.
Et qui peut tenir toutes les vacances. Donc c'est Brasier Noir de Greg Iles aux c'est éditions ça. Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Et le dessert.
Le dessert, c'est Seules les bêtes de Colin Niel au Rouergue. Alors là, ça se passe dans le Massif central. Une femme a disparu, une femme très riche. Sa voiture est retrouvée, mais pas son corps. Alors, c'est pas un vrai roman policier, parce que s'il y a une enquête, elle est quand même reléguée au second plan. C'est pas ce qui se passe, c'est pas la chose principale. Il s'agit plutôt de rencontrer cinq personnages qui parlent, qui racontent chacun leur histoire. Et chacune de ces histoires touche à celle de la disparue de près ou de loin, qui s'appelle Evelyne Duquin, parfois même sans que le protagoniste s'en rende compte.
C'est un peu un roman puzzle, quoi.
Oui, tout à fait. Oui. C'est un roman à facettes, voilà, qui est vraiment taillé comme un diamant. Chaque voix renvoie sa propre lumière et éclaire l'histoire d'une autre façon. Il y a Alice, l'assistante sociale, qui parcourt le cause pour venir en aide aux fermiers et qui rencontre Joseph, un éleveur dont elle tombe amoureuse, un type extrêmement seul, donc éleveur de brebis, qui est resté sur la ferme tout seul après la mort de ses parents. Alice est mariée à Michel, qui élève des vaches, mais entre elle et lui, c'est plutôt le silence qui s'est installé depuis assez longtemps. une vie de couple, certes, mais sans grand partage. Et puis Marie B, une jeune femme qui fuit son milieu bourgeois, vivote en vendant ses robes. Et puis Armand en Afrique, un pays que Michel et Alice avaient projeté de visiter il y a longtemps, mais sans jamais réussir à le faire. Mais en fait, le roman qui ressort le plus, c'est la solitude. Je dirais que c'est le personnage principal de ce roman, puisque chacun est muré et c'est ce qu'il peut pour y survivre. Voilà, c'est un très bon roman.
Et à Eussin, qui dessine le portrait en creux de la disparue?
Exactement, c'est ça.
Oh la vache,
chacun touche de près ou de loin à la disparue et éclaire son portrait, qui n'est pas le plus intéressant en fait. C'est pour ça que je te dis que l'enquête est vraiment reléguée au second plan. C'est pas elle le personnage le plus intéressant et de loin en fait.
Et donc c'était Seules les bêtes de Colin Niel aux éditions du Rouergue dans la collection Le Rouergue Noir. Et pour la musique, on change pas une équipe qui gagne, comme dirait Jupiter au soir de dimanche. Donc ce sont toujours les Cercopithèques polaires, braves petites bêtes, qui t'ont dédié un titre. C'est absolument imprononçable pour un être humain. C'est...
Eh bien, il s'agit de « Bet you look good on the dance floor », quelque chose comme ça. Et c'est Arctic Monkeys, s'il te plaît.
Oui, c'est bien ce que je disais. Merci beaucoup, Dance.
Il n'y a pas de quoi.
Bonnes vacances.
À toi aussi.
Les thrillers, le rayon thriller à emporter dans vos bagages. On commence avec Avant la chute de Noah Hawley, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, traduit de l'américain par Antoine Chénas, qui est lui-même un très bon écrivain de romans noirs. Et ça se passe un soir où 11 personnes embarquent à bord d'un avion, un jet privé qui appartient à David Batman. Et il y a dans cet avion, il y a entre autres Scott Burrocks, qui est un artiste peintre un petit petit peu raté, qui commence à avoir quelques expos à droite, à gauche, mais enfin, c'est pas la grande réussite. Et l'avion s'abîme en mer. Et deux personnes survivent, et Scott Burroughs, donc le peintre, et un tout jeune garçon, Gingy Batman, 4 ans, qui est désormais orphelin et héritier d'une immense fortune. Et au prix d'un exploit incroyable, il va nager des kilomètres et des kilomètres, Scott va sauver Gingy. Et le livre raconte ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire la rapacité par rapport à l'héritage du petit JJ, le rôle des chaînes d'infos en continu, parce que Patrick Batman avait une chaîne d'infos et qu'un des présentateurs s'acharne à présenter Scott comme le responsable du drame. Enfin, la pression médiatique, les menaces rendent la situation complètement incontrôlable. Personne ne sait en fait s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Alors c'est bien dans le ton de la série TV Fargo, pour ceux qui l'ont vu, c'est un petit peu absurde, très 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 précis dans les détails. Et Noah Hawley est le créateur de la série Fargo. C'est un thriller intelligent et passionnant. À lire donc, après Kisanga, c'est d'Emmanuel Grand aux éditions Liana Levy. Et ça raconte une bataille de grands rapaces de la finance, d'un côté des Chinois, de l'autre des Français, ayant pour cadre un gisement potentiellement extraordinaire au Congo. Et ça raconte comment ces deux gros protagonistes essayent en fait de s'arnaquer l'un l'autre, avec un journaliste qui cherche à régler une vieille histoire et qui va remonter une piste. Ça se passe à 100 à l'heure, ça dure 3 mois, et vraiment c'est complètement haletant du début jusqu'à la fin. Et le titre Kisanga a été pris Landerneau du Polar 2018, et c'est à lire absolument aussi. Et pour changer un peu d'atmosphère, on va partir au XVIe siècle avec Les Diables de Cardona de Matthew Carr, qui est paru chez Sonatine Édition et qui a été traduit de l'anglais par Claro. C'est une histoire qui raconte dans le nord de l'Espagne un petit village d'Aragon à la frontière avec la France. Un prêtre est assassiné et il y a toutes les marques sur les murs de l'église comme quoi cet assassinat serait dû à un extrémiste musulman qui se ferait appeler le Rédempteur, mais tout le monde ignore son identité, et qui a promis l'extermination de tous les chrétiens. Donc on en revient avec cette histoire de terrorisme, de barbares, et la façon dont ça a été réglé à l'époque avec l'Inquisition, avec le tribunal du roi. C'est très intéressant parce qu'on peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est un excellent roman, un thriller historique intelligent et cultivé, qui est passionnant par son intrigue et justement les rapprochements possibles avec notre société. Et voilà, 3 thrillers, c'est fait, et on s'écoute Jack Johnson, You and Your Heart.
So easy, but you and your
Une destination insolite pour vos vacances tout de suite avec le Monte Lagos et sa capitale Solmar, où des événements étranges et tragiques se déroulent. C'est ce que nous raconte Pascal Framont dans son excellent roman noir « L'affaire Mirage Life » qui est paru aux éditions Le Lamentin. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Mais où se situe donc le Monte Lagos ?
Le Monte Lagos, en fait, se situe en Amérique centrale. On peut imaginer assez facilement qu'il se situe à l'endroit où est le Mexique.
Ok, et donc là, Monte Lagos, c'est un pays assez particulier, parce que depuis 25 ans, c'est une dictature, où les habitants ont accepté de renoncer à toute liberté démocratique. En échange, le président Damiani s'est engagé à leur prospérité économique.
Absolument, oui, c'est en fait un pays dans lequel, qui était effectivement rongé par la pauvreté précédemment, et dans lequel, bien effectivement, Roberto Damiano, donc le président, voilà, le président de ce pays a en fait, donc d'une manière tout à fait démocratique, donc sans coup d'État, effectivement, réussi à convaincre son peuple de lui laisser les mains libres. Et donc de gérer son pays comme une entreprise, d'une certaine manière, et de laisser donc par conséquent en fait lui laisser les mains libres, de ne pas avoir donc de contre-pouvoir, de ne pas avoir de liberté d'expression, etc. Et tout ça en échange effectivement d'une société dans laquelle les gens sont finalement ont une capacité d'être effectivement assistés dans leur vie, que ce soit de la santé, le plan assurance chômage, etc. Un tas de choses qui sont totalement inconnues, qui étaient inconnues auparavant et qui, entre parenthèses, sont inconnues encore aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Amérique latine.
Et donc, dans ce pays, à Solmar, la capitale, il y a Gustavo, qui est un cadre d'une société qui a le vent en poupe, qui s'appelle Mirage Life, on y reviendra, qui a créé un concept intéressant, qui est assassiné chez lui, sous les yeux de sa femme, Louisa. Et oui. En fait, la police conclut l'affaire très rapidement, comme si on ne voulait pas trop voir ce qu'il y avait derrière.
Oui, c'est ça. Et donc Louisa, évidemment, on le découvre assez rapidement, qui est en fait elle-même un cadre ministériel, enfin qui est assistante du ministre de l'économie de ce pays, donc qui joue un rôle important sur un plan politique, et non seulement elle mais aussi sa famille, puisqu'en fait son père également est d'ailleurs membre
commandant de la police politique.
Voilà, donc en fait elle va se rendre compte que malgré tout, alors qu'elle fait une confiance a priori aveugle dans le système pour lequel elle travaille et qui finalement mis de gravir les échelons, elle va effectivement se rendre compte que l'enquête sur l'assassinat de son mari est très vite expédiée, qu'on va très vite à des conclusions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Donc ça va effectivement commencer à éveiller en elle des doutes.
Surtout que quand elle met en avant ses doutes auprès du policier qui a mené l'enquête, on lui dit que si elle n'est pas contente, il faut en référer à la police politique. Parce qu'il y a police politique au Monte Lagos, puisqu'il n'y a pas d'opposition, il faut bien contrôler et qu'une entreprise se sépare des collaborateurs qui sont indésirables. Donc c'est le même principe, la police politique est là pour écarter les citoyens qui sont indésirables. Et Louisa, même toute autre fonctionnaire qu'elle est, sait qu'elle n'a pas intérêt à s'embarquer dans ce problème-là avec la police politique.
Oui, mais elle va être après... Elle va être attrapée elle-même par la nécessité, en fait, au moment où effectivement elle a décidé plus ou moins de laisser tomber l'affaire, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas le choix, parce qu'en fait, elle devient elle-même menacée, et que par conséquent, le fait de trouver la solution, ou en tout cas de d'éclaircir le mystère de savoir qui a tué son mari, ça devient plus simplement une curiosité ou plus simplement le fait d'avoir bonne conscience quant à avoir recherché les raisons de la mort de son mari, mais ça devient vraiment une question de vie ou de mort.
Et donc Gus était cadre aussi commercial dans une grande entreprise qui est au centre du roman, puisque c'est l'entreprise, c'est Mirage Life. Et oui. C'est, le concept, c'est les villes thématiques. Moi, j'aimerais bien que vous en parliez un peu, parce que c'est quelque chose d'assez passionnant.
Alors en fait, le truc, c'est que les et ça, c'est donc en opposition par rapport à la société très finalement très consumériste, très matérielle en fait, que dans laquelle le Montelagos a finalement a développé son système. Eh bien en fait, donc la société Mirage Life a compris qu'il fallait vendre du rêve aux gens. Et donc à l'origine, ils ont commencé déjà par en fait un système d'écran, je dirais à très très haute définition, qui fait qu'en fait ils transforment en fait des lieux, des restaurants et puis ensuite des domiciles en leur donnant en fait une vue virtuelle, d'où l'image en fait Mirage Life en fait, qui est le fait de finalement de mener une vie dans un lieu dans lequel on n'est pas. Donc ça, c'était le début de la société. Et puis ensuite, ils ont effectivement développé ensuite un concept qui s'appelle les villes thématiques et qui consiste tout simplement dans le fait de regrouper dans une ville bien des gens passionnés par un sujet et de que, je dirais, toute la société, en quelque sorte, dépende de ce sujet-là, c'est-à-dire, en gros, soit gérée autour de cette passion. Donc on prend l'exemple, voilà, il y a deux exemples qui sont pris dans le livre. Il y en a un qui est pris sur les échecs. Et un autre sur les mathématiques voilà. Et donc en fait les gens qui sont dedans ben en fait évoluent, tous les systèmes de valeurs est fait uniquement en fonction de leur passion et donc ça devient quasiment en fait une société parallèle.
Et il y a aussi la littérature, il y a aussi la musique classique, etc. Oui. C'est des micro-sociétés, ces villes-là sont des micro-sociétés autogérées où les habitants sont sans cesse soumis à des examens pour oui. Prouver qu'ils peuvent bien vivre là.
Absolument. Et c'est grâce à leur passion en fait qu'ils peuvent gagner du coup leur vie, puisque finalement ça, je dirais que c'est un, il y a qu'à voir en fait s'inspirer un petit peu de ce qu'est devenu effectivement pour les jeux de casino, ben en fait ces villes-là deviennent des villes qui attirent également des gens de l'extérieur en fait faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc en fait vous avez des gens qui finalement vivent de leur passion du matin au soir, voilà. Et donc ça devient effectivement, c'est une sorte de contre-pouvoir en quelque sorte, ou de je dirais une société totalement différente et en opposition par rapport à celle du Montelagos au niveau global.
Ben en même temps, ceux qui vivent dans ces villes-là ne s'intéressent pas au Montelagos au niveau global, et donc ça élimine potentiellement des oppositions.
Oui, absolument. Mais inversement, c'est vrai aussi que...
ça marche dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens, et ça marche d'autant plus dans les deux sens que d'ailleurs, le Montelagos, en fait, il voit aussi un grand intérêt, parce que, comme on l'a dit, le Montelagos gère finalement le pays comme une entreprise, et donc par conséquent, doit générer évidemment des fonds, doit générer des profits, doit générer également, donc doit faire rentrer de l'argent dans les caisses, et l'une des manières d'y arriver, c'est de développer l'attrait touristique du pays, et effectivement, les villes thématiques y contribuent largement.
Et Louisa, donc, qui continue son enquête, parce qu'elle ne se laisse pas non plus impressionner, c'est une héroïne assez, assez forte, et s'aperçoit qu'au centre du problème, il y a des supposées mémoires écrites par Gustavo, et qui, oui. Les villes thématiques et Mirage Life étaient présentées par Damiano comme la priorité nationale, et en fait, elle s'aperçoit que les villes thématiques subissent des tracasseries administratives, etc. C'est là-dessus qu'elle va baser son enquête, et elle va rentrer en contact avec la résistance, parce qu'il y a résistance, il y a, mais une résistance très très éclatée.
Oui, c'est une résistance qui est en fait... une résistance qui s'est finalement construite, progressivement, et plutôt en opposition en fait face à à l'idéologie dominante au Montelagos, et notamment face à ce fameux pacte dont on parlait au début, proposé donc le pacte de solidarité nationale imposé par Damiano, ou en tout cas proposé au début par Damiano à son peuple. Et donc là la résistance s'oppose de manière frontale à cette vision des choses. Forcément d'ailleurs en proposer une autre vraiment très claire, c'est plutôt...
Oui, il y a une absence de ligne idéologique en face. En fait, on ne veut surtout pas en parler.
Non, puis c'est une résistance, et ça c'est un, entre guillemets, ce qu'on peut voir aussi dans d'autres mouvements de résistance politique dans l'histoire. C'est vrai que les mouvements de résistance ne sont pas forcément animés par un projet très 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 construit et très cohérent. C'est souvent parfois des mouvements de résistance qui se lient les uns aux autres dans un seul intérêt ou dans une seule dans ce point commun qui est finalement l'opposition au régime actuel.
Oui, mais c'est ce qu'on voit, par exemple, si on prend la Chine, les alliances de Mao et du Kuomintang, ou en France, l'alliance ponctuelle et parfois des FTP et des FFI.
Absolument.
Mais c'était des groupes constitués avec une idéologie. Là, ce qui frappe dans votre bouquin, c'est que c'est des résistances presque individuelles qui se coagulent comme ça, mais il n'y a pas vraiment de fond politique.
Non, il n'y a pas de mouvement idéologique très fort. C'est peut-être aussi parce que ça fait déjà 25 ans que le gouvernement est en place. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil que quand une dictature s'est mise en place donc relativement récemment, et donc par conséquent a éteint ou a fait disparaître des partis déjà constitués ou des idéologies déjà constituées. Là, en l'occurrence, on est 25 ans plus tard. Donc c'est vrai que du coup, on peut imaginer que dans un pays comme ça, où finalement la vie politique, la vie intellectuelle, d'une certaine manière, ont été mis tout au noir, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas forcément des grands mouvements idéologiques très, très puissants ou très forts, et que la résistance finalement s'autogénère en quelque sorte, d'une certaine plutôt par rapport à des revanches aussi, en disant les gens rentrent en résistance pas forcément pour un projet politique, mais aussi pour finalement se venger en quelque sorte de ce que leur a infligé sur un plan personnel le parti et le gouvernement. Par exemple, des proches emprisonnés, embastillés, assassinés par la police politique, etc. Voilà, ça constitue d'ailleurs, il y a un exemple d'ailleurs dans le livre, effectivement, d'une personne pas forcément politiquement impliquée, mais qui en fait rentre dans la résistance, ou en tout cas adhère au mouvement de résistance parce que son fils s'est fait lui-même assassiner par la police politique.
Et c'est ce que prend Louisa. Il y a une très belle phrase dans le livre où quelqu'un dit à Louisa: vous êtes prête à tous les sacrifices dans la mesure où ce sont les autres qui les consentent.
Oui, alors c'est là aussi où moi, ce qui m'a intéressé en fait dans cette histoire, c'est que c'est ce que j'ai essayé de faire en fait avec ce livre, c'est finalement que l'héroïne en quelque sorte soit totalement changée en fait entre le début et la fin du livre, et que finalement ce qui va lui arriver, donc l'assassinat de son mari et tout ce qu'on vient de citer, à savoir donc cette enquête qui piétine, qui a été expédiée, et tout ce qui va la faire réfléchir elle-même sur finalement le bien fondé de ses idéaux politiques, le bien fondé de ce qu'elle a fait elle-même, et finalement son rôle. Parce que c'est bien joli de dire, ok, oui, c'est un gouvernement antidémocratique. Le problème, c'est qu'elle en est partie prenante. Et comme on l'a dit plusieurs fois, partie prenante par elle-même, par son père, par son éducation, par ses credos, etc.
Et par ses actes. On a l'impression que votre héroïne, elle passe de l'imprégnation de la propagande à la réalité, petit à petit.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que, bon, moi, comme j'ai vécu en fait dans des pays assez différents, j'ai vécu notamment donc au Mexique et en Chine, puisqu'on a évoqué ces deux pays. C'est vrai que finalement, les gens qui font partie en fait du parti au pouvoir, notamment donc dans un pays non démocratique, raison pour le faire, mais sauf que voilà, et avec la fameuse formule qui d'ailleurs figure en couverture du livre en espagnol, mais qui est en fait la fin justifie les moyens. C'est en gros de dire oui, mais bon, très bien, oui, la démocratie c'est bien joli, mais enfin finalement ce qui importe c'est finalement l'intérêt de la collectivité plus que l'intérêt des individus. Et tout ça c'est évidemment très beau sur un plan théorique, ça l'est beaucoup moins quand les personnes elles-mêmes sont confrontées à ça en tant qu'individus. Et c'est là où justement on retrouve du coup une confrontation de point de vue assez fort, et dans lequel les convictions peuvent vaciller.
Et ce qu'on s'aperçoit petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est que la transparence mise en avant, par exemple, il y a un symbole très fort, c'est que l'immeuble de la police politique est tout en vert, et que cette transparence-là est impossible à garder en politique.
En fait, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'effectivement, dans la mesure où ce n'est pas un, il n'y a pas eu entre guillemets comme pour d'autres pays par le passé, où en fait finalement l'absence de démocratie s'est d'une certaine manière révélée dans le temps. Elle n'a jamais été formalisée. Là, en l'occurrence, elle a été formalisée par Roberto Damiano, donc par le président. Elle a été formalisée et elle a été d'emblée présentée au peuple. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ce qu'il propose en échange est une parfaite transparence pour éviter qu'effectivement ça devienne du total népotisme, ça devienne une république bananière, etc. Or le problème effectivement c'est de rester transparent dans un pays comme celui-là, et que voilà, c'est là aussi où très très vite on arrive à des contradictions. Et il est clair que c'est là qu'on voit que dans une démocratie, effectivement, il y a moyen de, si même on peut accepter un certain nombre, je dirais, de manque de, enfin, une certaine dose de manque de transparence en quelque sorte, parce que finalement, d'une certaine manière, si on n'est pas content, en fait, aux prochaines élections, on dégage le gouvernement. Dans un cas comme celui-là, dans le cas d'un pays sans démocratie, le problème très très rapide, et ça on le voit bien dans un pays comme la Chine, devient la lutte contre la corruption. Autrement dit, il est indispensable de pouvoir avoir une grande transparence, mais qui n'est pas forcément facile à atteindre.
Ouais, comme quoi, les start-up nations, c'est pas très très facile à gérer, quoi.
Non, ça on l'a vu, on l'a bien vu avec Chavez, on l'a bien vu avec d'autres, avec certaines, voilà, avec des...
Il y a des parallèles quand même dans votre livre, où on voit par exemple que Damiano est entouré de 3-4 personnages politiques importants et pesants avant sur l'avenir politique du pays, et que le reste c'est des seconds couteaux, voire des traîtres à leur ancien parti. Enfin bon, il y a quand même tout un parallèle qu'on peut monter avec une situation qu'on connaît à l'heure actuelle ici, quoi.
C'est un système qui est souvent effectivement un régime comme celui-ci est bâti sur une structure avec quelques acteurs très forts qui effectivement tiennent le pouvoir et juste en dessous du président, et ensuite avec un tas de gens qui profitent du système et qui entrent sans vraie grande conviction. Là en l'occurrence c'est-à-dire pas le cas en fait Portero, donc de l'héroïne, qui est entrée à l'origine par conviction. Donc elle n'y est pas allée juste par opportunisme mal placé ou bien placé, enfin bref, elle n'y est pas juste venue ici pour faire carrière, elle a véritablement une conviction rivée au corps. C'est d'ailleurs ça qui en fait aussi d'ailleurs l'intérêt, de voir aussi le voyage qu'elle accomplit exactement avec elle-même, parce que justement elle doit remettre en cause ses propres convictions et presque sa propre raison d'exister, parce que finalement c'est quelqu'un de très ambitieux, mais aussi qui accomplit son travail non seulement dans un objectif de promotion sociale, mais aussi parce qu'elle a un vrai idéal et qu'elle est convaincue d'être du beau côté finalement de la tartine.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Framont. Je rappelle votre livre, c'est l'affaire Mirage Life. C'est un roman noir. Vraiment, c'est à lire là pendant vos vacances. Profitez-en. C'est paru aux éditions du Lamentin. On va clore avec un titre qui s'appelle La loi du marché, qui me semblait tout à fait... Il n'y a pas de musique dans votre livre, donc voilà, j'ai choisi. C'est Bernard Lavillier et Cyril Mokayesh. Merci beaucoup, Pascal.
Merci beaucoup.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber.
On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers.
l'hiver et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier.
On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité.
On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie.
Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés.
De quoi vous distraire et nous faire tomber.
On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années.
Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays.
On vous laisse nos frontières se refermer, homme à la mer, émigré, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée, enfant de la guerre. Cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
De quoi vous distraire pour quelques années.
De quoi vous distraire et vous en aller.
De quoi vous distraire et vous en allez.
De quoi vous distraire et vous en allez.
Deux romans noirs pour finir, deux très beaux romans noirs, politiques, sociétaux, à ne pas rater. C'est La route de tous les dangers de Chris Nell Scott, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire et traduit de l'anglais américain par Luc Barranger. Ça raconte une histoire à Memphis en 1968 où Smokey Dalton est détective privé. Et il va suivre l'affaire d'une cliente parce qu'il hérite d'une somme et il se demande bien pourquoi lui, un noir de Memphis, hérite d'une riche financière blanche. Et ça raconte aussi et principalement la fin de Martin Luther King, puisque c'est au cours des émeutes qui vont suivre à Memphis pendant la grève des éboueurs que Martin Luther King sera assassiné. Alors il y a toute l'histoire des courants politiques noirs, des différentes factions qui s'affrontent entre les Black Panthers et la non-violence à la Martin Luther King. C'est l'anatomie d'une exécution politique et un formidable récit, une intrigue absolument passionnante. C'est vraiment un bouquin à lire pour comprendre ce qui se passait à cette époque-là dans le sud des États-Unis. Et le deuxième, c'est une petite merveille, très courte, 150 pages. Ça s'appelle La Petite Gauloise de Jérôme Leroy et c'est paru à la Manufacture des Livres. On est dans une grande ville de l'ouest de la France et le temps est complètement suspendu parce qu'on s'attend à un attentat. On ne sait pas quoi, on ne sait pas exactement, parce que tout ce qui aurait pu expliquer et tout ce qui aurait pu prévenir n'a pas été fait. Et donc, c'est 150 pages de suspense absolument fascinant. Et moi, je vous le recommande parce que c'est glaçant de réalisme et super moment écrit. C'est La Petite Gauloise de Jérôme Leroy à la Manufacture des Livres. Et on s'écoute She's Together de Little Richard.
She's got me. She's so small, she's so black, she's
Voilà, vous avez désormais de quoi meubler les heures de Farniente que nous vous souhaitons ensoleillées. Pour retrouver les romans 404.com, rubrique Dépolaré des notes, nous vous retrouvons à la rentrée pour l'avalanche de livres saisonnières. Et je peux déjà vous dire qu'il y a du très très lourd. Bonnes vacances, bonne lecture, bye bye.
Des polars et des notes.